C'est Cinéstar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Cinéstar avec Kevin.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Cinéstar. Je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Marc. Salut Marc.
Salut Kevin.
Nous sommes tous les deux membres de l'association cinéphile marseillaise Le Poulpe Savant et à l'occasion de la sortie du film Rumors, Nuit Blanche au Sommet, une comédie satirique horrifique sur des chefs d'État réunis lors d'un G7 qui se font attaquer par des zombies, avec Cate Blanchett, Alicia Vikander et aussi Denis Ménochet, eh bien nous avons voulu revenir sur la carrière de l'acteur français à la carrure massive, aux yeux bleus perçants et surtout avec un jeu très polyvalent. Moi, c'est un acteur que j'apprécie tout particulièrement, je le trouve très juste dans toutes ses interprétations. Toi, Marc, sans parler des films dans lesquels il a joué, est-ce que c'est un acteur que tu apprécies ?
Oui, j'aime beaucoup sa présence, comme tu as dit très bien, c'est sa présence massive. En même temps, selon les rôles, il peut être aussi paraître presque fragile. Je pense que c'est lié un peu à son regard et parfois terrifiant aussi, hein, donc sans parler des films, comme tu as dit. Et effectivement, il a une palette de jeux assez incroyable.
Je préviens tout de suite, nous allons parler de trois très grand film, et j'aurais pu en citer bien d'autres aussi tant que sa carrière est riche. Alors si vous avez envie de vous découvrir des films très différents, intéressez-vous à la carrière de Denis Ménochet, et c'est un chemin un peu transversal dans des comédies, dans des thrillers, dans des choses complètement plus perchées. Voilà, ça mérite de s'y attarder. Et tout de suite, on démarre avec une première question pour un premier film, pour aborder un premier film. Sais-tu dans quel film de François Ozon il joue une victime d'un prêtre ?
Oui, à la grâce de Dieu ?
Alors, pas très loin, c'est pas loin, c'est Grâce à Dieu.
Grâce à Dieu, voilà, oui. Oh putain, il est magnifique ce film, parce que j'aime pas tout Ozon. Bon, ceci dit, il en fait tellement que forcément dedans, il y a du moins... Mais alors celui-là, je l'ai trouvé magnifique.
Ouais. Oui, oui, je te rejoins.
C'est très, très touchant et Ménochet, effectivement, était très émouvant.
Je te rejoins parfaitement. C'est le meilleur Ozon, je pense.
Oui, c'est vrai.
Il en a fait d'autres très bons. Je pense surtout à Été 85, que j'aime beaucoup.
Intéressant, oui.
Ben forcément, en sortant presque un par an, c'est toujours compliqué d'être toujours au mieux de sa forme. Un petit peu comme Quentin Dupieux. Il y en a qui sont très bons, d'autres un petit peu plus moyens. Mais Ozon, il a cette sensibilité, il a ce regard qui est extrêmement intéressant lorsque l'on parle de cinéma français. C'est un réalisateur qui est devenu incontournable depuis 20 ans maintenant.
C'est vrai que celui-là de film, il y a une ambition supérieure, il y a quelque chose en plus, quoi. Je ne sais pas si c'est le sujet, mais il y a quelque chose de très très fort. Hein.
Alors parlant du sujet, évidemment, ce film, après les révélations récentes de Bétarame sur des écoles catholiques privées qui sont sous le coup d'accusations très graves envers des prêtres, ce film, Grâce à Dieu, sorti en 2019, résonne encore aujourd'hui, puisque c'est l'histoire d'un homme catholique marié avec enfant, Melville Poupeau, qui découvre que le prêtre qui a abusé de lui au scout quand il était enfant, eh ben, il officie toujours aujourd'hui auprès d'autres enfants. Alors il se lance dans un combat avec d'autres victimes pour libérer leurs paroles sur ce qu'ils ont subi. Denis Ménochet et Swann Harlow sont ces autres victimes-là qu'il croise au fur et à mesure de son chemin. Tu l'as dit, ce trio d'acteurs, vraiment extrêmement touchants, tous. Parce qu'ils ont tous les trois un rapport différent à la religion.
Et oui, c'est ça, ils réagissent différemment. Ouais.
Ils se sont construits tous les trois différemment, voilà, sur ces violences sexuelles qu'ils ont subies étant jeunes. Et ils sont à des endroits différents de leur vie. Il y en a un qui est marié avec des enfants. Ouais. Il y en a un autre qui... je crois, pour Swann Harlow, vit encore chez sa mère, Josiane Balasco, a une vie malheureusement plus terne. Et voilà, c'est comment se reconstruire et quel effet ça a de libérer la parole. Il y a aussi Hélène Vincent et Pierre Lottin dans un plus petit rôle, déjà en 2019. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, François Ozon, il prend le point de vue des victimes, il se place du côté des humains et non du judiciaire ou du religieux. Hein. Il a rencontré évidemment les victimes qui lui ont donné beaucoup d'informations, et au départ il avait envie de réaliser un documentaire. Et en fait, les victimes en avaient un petit peu marre de parler, de témoigner, ils en avaient déjà beaucoup dans la tête, et d'ailleurs c'est ce que montre le film sur un des personnages, sans rien spoiler. Au bout d'un moment, il en a marre, quoi. Il en a marre de prendre la parole, il en a marre d'être sur le devant de la scène. Donc il a plutôt choisi la fiction pour raconter cette histoire. Et évidemment, cette histoire est tirée d'histoires vraies.
Oui, bien sûr.
Il me semble que le film cite son nom, il s'appelle Le Père Prénat. Et
oui,
justement,
c'est ça, exactement.
Eh bien, justement, avant la sortie du film, le procès du Père Prénat était encore en cours, et il y a eu un référé déposé pour reporter la sortie du film en France, mais ce référé a échoué, et le film a bien pu sortir en temps, et le Père Prénat a ensuite été condamné par la suite.
Il était soutenu par Barbarin, non ? C'est pas ça ? L'archevêque ?
Le cardinal Barbarin. Qui est très proche du Vatican. Et d'ailleurs, François Ozon, qui n'a pas pu tourner son film à Lyon, ou en tout cas très très peu de scènes, puisqu'il y a un important réseau catholique à Lyon qui faisait pression pour que le tournage n'ait pas lieu. Alors, il a dû tourner des scènes dans les églises en Belgique et au Luxembourg, beaucoup d'autres scènes aussi en région parisienne, et quelques scènes d'extérieur à Lyon, mais sous le nom de code Alexandre, et non Grâce à Dieu. D'ailleurs, il a dit aussi que c'était plus difficile à financer que ses précédents films. Voilà. C'est dire si ce film a bouleversé, et pour l'avoir vu en salle à l'époque, je suis sorti les larmes aux yeux. Je vous recommande très chaudement de regarder ce film si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que c'est évidemment un vrai uppercut. Deuxième question pour retracer la carrière de Denis Ménochet. Plus facile, je suis sûr que tu vas trouver. C'est un film un petit peu uppercut aussi, hein, on peut dire ça comme ça. Dans quel film de Quentin Tarantino interprète-t-il Monsieur Lapédite ?
Oui, c'est Inglourious Bastard, pardon, de Tarantino, qui est pas le Tarantino que je préfère, loin de là. Je suis assez ennuyé.
Pourquoi ?
Je trouvais que c'était du Tarantino qui faisait du Tarantino, quoi. Sauf cette scène du début qui est extraordinaire, et dans laquelle Ménochet, alors je le connaissais pas hein, quand je l'ai vu, d'ailleurs ça doit être un de ses premiers rôles.
Oui.
Rêve l'écran justement avec ses yeux bleus, etc.
Cette scène
magnifique, ouais.
Où il joue un fermier français qui cache des juifs chez lui. C'est évidemment Christopher Waltz, tu l'as dit, qui joue l'officier allemand nazi qui se rend chez lui pour chercher les juifs. Et cette scène de tension extrême, parce que Tarantino nous dévoile le pourquoi du comment au milieu du dialogue, on va dire, par un travelling qui descend de haut en bas et qui finit donc à la cave, et on voit donc ces jeunes enfants juifs qui se mettent la main sur la bouche pour ne créer aucun son, et ont extrêmement peur, sont terrifiés, et du coup nous à ce moment-là on est aussi terrifiés. Alors Inglourious Bastard, c'est un film avec un excellent casting, hein, Brad Pitt, il y a aussi Mélanie Laurent, Michael Fassbender, Jared Kruger, Daniel Brühl, j'adore ce casting très, très hétéroclite aussi, et puis assez respectueux, on va dire, des origines de ces personnages, puisque Mélanie Laurent joue une Française, Jared Kruger joue une Française qui parle très bien allemand, etc., etc. Et alors, le savais-tu, ce long métrage a failli s'appeler Once Upon a Time in Nazi Occupied France.
Ah non, je ne savais pas.
Alors ça me fait rire parce qu'évidemment son dernier film s'appelle Once Upon a Time in Hollywood, Petite info intéressante aussi, il y a deux acteurs sur le tournage du film, Eli Roth et Omar Doom, qui jouent des rôles secondaires, qui ont failli passer, tout simplement, lors du tournage de la scène de l'incendie du cinéma. Alors, cette scène mythique, hein, puisque je vais spoiler un petit peu, mais Tarantino tue Hitler dans ce cinéma. À coup de lance-flamme, hein, la température a grimpé jusqu'à 1200 degrés sur le plateau de tournage. Et selon les pompiers, il aurait fallu 15 secondes de plus pour que toute la structure métallique du décor s'effondre sur les deux hommes et les brûle, tout simplement. Donc ils s'en sont sortis de peu, quoi. Et pour terminer, Quentin Tarantino a présenté donc ce film en compétition au Festival de Cannes en 2009. C'est Christopher Waltz qui ressort gagnant de la compétition puisqu'il aura reçu donc le prix d'interprétation masculine, très 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 mérité.
Tout à fait.
Et puis, alors, pour retracer à nouveau la carrière donc, de Denis Ménochet, une troisième et dernière question. Sais-tu dans quel film il joue un Français qui s'installe dans un petit village de Galice avec Marina Foïs ?
Asbestas.
Oui, tout à fait. 3 sur 3.
Il a eu un prix. Ouais, c'est la première fois, tiens. qui était, oui, là aussi, un beau film dans lequel sa carrure et sa présence massive jouaient pour beaucoup,
oui. Oui, parce que sans en dire trop, en fait, il se retrouve être une proie pour les villageois sur place. En fait, Marina Foïs et Denis Ménochet interprètent un couple qui s'installe dans un village espagnol en déclin. Ils ont une ferme et ils restaurent des maisons abandonnées pour que le village se repeuple. Sauf qu'il y a deux frères voisins belliqueux qui se méfient de ces étrangers. Et ce qui est très fort, c'est que le scénario nous permet à nous, spectateurs, de comprendre la frustration, la haine de ces deux frères qui ont peur, hein, sans pour autant justifier leur comportement. Et le film bascule dans le thriller tendu, efficace, jusqu'à un climax. On pourrait dire que ensuite, l'épilogue sera plus posé, pas du tout. Les dialogues, la mise en scène effroyablement efficace continuent hein, de tendre le récit, notamment lors d'une dispute de deux personnages dans la cuisine. Oui, c'est un film qui m'a retourné, moi, à l'époque.
Complètement.
C'est Rodrigo Sorogoyen qui est un habitué du genre, hein, du thriller. C'est un grand cinéaste espagnol. Et je trouve que la richesse de ce film passe par le multiculturalisme. C'est-à-dire que les deux frères sont vraiment interprétés par des Espagnols. Denis Ménochet et Marina Foïs sont vraiment français. On voit qu'il y a aussi un petit peu cette barrière de la langue qui s'installe entre eux et qui va générer les tensions.
Tension sourde, là, qui... Je me souviens de quelques scènes quand il va dans le bar où on sent dès le début qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Et pourtant, c'est pas dit explicitement, mais il y a une tension dès le début et on sent qu'il est pas à sa place et que ça va créer des problèmes.
Ouais. Tu parles de cette scène dans le bar. En fait, il y a deux moments dans le bar. La première où, il est vraiment mis à part. Et puis, la deuxième où les frères viennent chacun à côté de lui, tu vois, l'entoure, et la caméra qui zoome très lentement, très progressivement vers ce trio d'acteurs accoudé au bar, et lui qui, petit à petit, le piège se referme sur lui, quoi. Hein, il est devenu la proie au fil d'un dialogue de, je crois, 5 minutes ininterrompues, un long plan séquence absolument tendu et effrayant, alors que la violence c'est une violence presque simple, c'est une violence j'ai envie de dire même banale entre voisins, tu vois.
Oui, mais il me semble qu'au début il n'y a pas vraiment, enfin il n'y a pas une animosité ouverte. On a presque l'impression qu'il est intégré dans cette communauté et en même temps on sent qu'il l'est pas vraiment. Enfin c'est hyper bien fait.
Tout à fait. Alors, Marina Foïs et Denis Ménochet ont dû apprendre l'espagnol. C'était des rôles très physiques aussi. Et Denis Ménochet a même déclaré qu'il avait fait un malaise parce qu'il y a à un moment donné une séquence de combat à main nue. Il a dû se baigner aussi tout nu dans un lac glacé. Pour lui, voilà, c'était épuisant. Mais il disait que c'était une expérience inouïe et qu'il a eu la chance de vivre. Voilà. Asbestase, c'est un très très grand film aussi. Voilà, trois très grands films que l'on vous recommande de voir ou de revoir. En tout cas, bravo Marc, tu connais très très bien la carrière de Denis Ménochet. Ouais.
J'ai eu 3 sur 3. Je suis content.
Merci d'avoir participé à cet épisode. Ouais. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis à 19h en live sur Radio Star pour les sorties ciné de la semaine et aussi donc en podcast disponible sur le site de Radio Star et toutes les bonnes applis d'écoute. À la semaine prochaine, salut.
Salut.
Cinéstar sur Radio Star avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Radio Star.